Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le ton se durcit entre la CGT et le gouvernement. Ce matin, des policiers ont libéré, ce sont les mots de Manuel Valls, le site de Fos-sur-Mer. La centrale syndicale réplique en lançant de nouveaux mouvements de grève. Analyse de ce bras de fer avec Annabelle Grelier et avec Stéphane Robert. La commission des finances de l'Assemblée nationale rejette le projet de coupe budgétaire dans la recherche, suivi de ce dossier signé Catherine Pétillon. Et puis nous reviendrons aussi sur la loi, sur la justice du 21e siècle qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. 18h20 du Grain à Moudre avec vous Hervé Gardette.
L'Espagne vit-elle une nouvelle transition démocratique? Nous en discuterons avec Juan Luis Cebrián, Alicia Fernandez-Garcia, Sophie Babi et Benoît Pellistrandi.
À tout à l'heure. La France sera-t-elle bientôt à l'arrêt? C'est clairement le pari que fait la CGT, la centrale syndicale qui jette en ce moment tout son poids dans ce conflit social autour de la loi travail. Le gouvernement a décidé lui aussi de hausser le ton aujourd'hui avec, comme il l'a promis à plusieurs reprises, l'utilisation de la force publique afin de dégager l'accès au site pétrolier de la Fos-sur-Mer. En l'occurrence, les policiers sont intervenus ce matin. Le Premier ministre Manuel Valls, qui achève sa visite au Proche-Orient, promet que d'autres sites seront libérés, ce sont les mots qu'il a employés. Quant à la centrale syndicale, bonsoir Annabelle Grelier. Quant à la CGT, donc, eh bien, elle a décidé, Annabelle, de muscler son mouvement et de continuer à résister.
Si la CGT annonce que la grève a été votée dans les 8 raffineries françaises, 6 véritablement sont à l'arrêt ou tournent au ralenti, tandis que plusieurs dépôts restent bloqués par des manifestations extérieures. Mais il n'en reste pas moins que le spectre d'une pénurie de carburant grandit. Ces blocages provoquent depuis plusieurs jours des difficultés d'approvisionnement de stations-service et des ruées d'automobilistes aux pompes. Initialement concentrés dans le nord et l'ouest, le phénomène s'étend à d'autres régions, comme aujourd'hui en Île-de-France, en Rhône-Alpes ou encore dans le centre et en PACA. Une situation qualifiée par le PDG de Total, Patrick Pouyanné, de rupture du pacte entre le groupe et ses employés. Cela va nous conduire à réviser sérieusement les plans que nous avons d'investissement dans l'ensemble de ces sites, a menacé le dirigeant en marge de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Au port de Marseille, les deux terminaux sous la responsabilité de l'opérateur privé, Fluxel, sont paralysés depuis hier matin par des salariés grévistes qui empêchent le chargement et le déchargement des navires. 25 navires transportant hydrocarbures et gaz liquide sont actuellement bloqués et les dockers ont déposé un préavis de grève pour jeudi, journée nationale d'action contre la loi travail. La CGT ce soir ne désarme pas, bien au contraire. À la SNCF, la CGT cheminot, qui était en débrayage les mercredis et jeudi, appelle ce soir à la grève reconductible à compter du 31 mai, grève à laquelle il faudra rajouter celle illimitée à la RATP à partir du 2 juin.
Merci Annabelle Grelier. Alors sur le front politique, le ton se durcit, je l'ai dit aussi, à l'égard de ceux qui bloquent les raffineries. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Tara.
Et c'est clairement donc la CGT qui est visée.
Oui, du côté de l'exécutif comme des parlementaires à l'Assemblée nationale, on est bien conscient que cette histoire est en train de tourner au bras de fer entre Manuel Valls et la CGT. Et même les députés socialistes frondeurs estiment désormais que ça peut mal se terminer, à commencer par leur chef de file Christian Paul, député de la Nièvre, dont le discours en quelques jours a beaucoup évolué.
Il y a eu un durcissement politique avec l'article 49.3. Donc c'est vrai, il y a aujourd'hui raidissement des positions syndicales. Et donc je pense qu'au point où on est rendu, la seule solution, c'est les chemins du dialogue qu'il faut retrouver.
Mais revenir au dialogue, essayer de renégocier, est-ce encore possible ? À droite, beaucoup pensent, comme Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche, qu'on n'en est plus là et que Manuel Valls n'a pas d'autre choix que de rester ferme et de continuer à faire appel aux forces de sécurité.
Aller plus loin, c'est vraiment se déculoter. Il ne doit pas renlever ce texte. C'est politiquement pour moi impossible aujourd'hui. Et il ne doit pas se déculoter devant ceux qui bloquent les raffineries et qui veulent entraîner le pays dans le chaos.
Et à gauche également. Enfin, chez les députés qui soutiennent encore ce gouvernement, comme le socialiste Malek Bouti, il affirme lui aussi que Manuel Valls ne doit pas, ne peut pas céder.
À un moment ou à un autre, quand quelqu'un sort un pistolet, faut lui dire on va voir si t'as les couilles d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et on va voir si la CGT, ils sont prêts, une sorte de petit golpé en France, etc. Une sorte de petit coup d'État. Pour qui ils roulent au bout du compte? Parce qu'au bout de leur comportement, il n'y aura pas un candidat issu de la philosophie CGT qui va gagner aux élections présidentielles. Mais quelqu'un d'extrémiste, le Front National.
À l'Élysée comme à Matignon, on fait cette même analyse que la CGT est en train de livrer là. Une guerre syndicale coincée d'un côté entre l'éternel rival CFDT et de l'autre le concurrent Sud qui lui grignote des parts de marché sur le plan de la radicalité. Mais on pense aussi que sur le plan politique, ce combat ne peut pas dégénérer parce que le mouvement et les blocages, un, ne sont pas populaires et aussi parce qu'il n'y aura pas de pénurie, dit-on au gouvernement, parce que d'ici quelques jours, la situation va se débloquer.
Affaire donc à suivre. Merci beaucoup Stéphane Robert. Peut-être les laboratoires de recherche vont-ils échapper aux couperets budgétaires. Rien n'est encore sûr, mais la mobilisation des prix Nobel semble avoir été entendue au Palais Bourbon. La commission des finances de l'Assemblée nationale devait examiner tout à l'heure un projet de décret présenté par le gouvernement et elle ne semble pas d'accord avec ce projet. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir Tara.
Le gouvernement doit faire des économies pour financer plusieurs mesures qu'il juge urgentes. Parmi les premiers touchés par ces annulations de crédit, il y a la recherche scientifique et l'enseignement supérieur. Matignon proposait d'amputer ses crédits de 256 millions d'euros, mais la commission des finances vient de dire son opposition, Catherine.
Au regard des enjeux de recherche de la France, cette ponction peut endommager de manière durable l'effort de recherche mené. Voilà ce que la commission écrit dans son avis, mais elle ne se prononce là que sur une partie des annulations de crédit prévues par le projet de décret, à savoir la baisse de 114 millions d'euros sur les budgets du Commissariat à l'énergie atomique et du CNRS. Alors la rapporteure générale, la députée PS Valérie Rabault, recommande de renoncer à ces annulations de crédit et estime, je cite, que d'autres solutions peuvent être envisagées pour respecter l'équilibre budgétaire sans avoir à impacter l'effort de recherche. Un avis adopté par les députés de droite comme de gauche. Ces coupes reviendraient à se tirer une balle dans le pied pour très longtemps, a estimé l'élu PS Karine Berger. Le député LR Patrick Hetzel a lui dénoncé une faute scientifique mais aussi politique majeure. La rapporteure a néanmoins tenu à préciser que cet avis avait été rédigé avant la mobilisation des chercheurs et notamment la tribune signée hier par plusieurs prix Nobel qualifiant ces mesures de suicide scientifique et industriel. Cet après-midi, les conseils scientifiques de 5 organismes de recherche se sont également indignés de ce projet de décret. La commission des finances du Sénat a elle aussi jugé la réduction des moyens alloués aux organismes de recherche incohérente avec les engagements pris par le président de la République. Néanmoins, rappelons-le, ces avis ne sont que consultatifs.
Merci Catherine Pétillon. L'Élysée entendra-t-il effectivement la voix des prix Nobel? Le chef de l'État, en tout cas, est revenu à plusieurs reprises dans l'émission d'Emmanuel Laurentin ce matin sur l'importance que revêt pour lui la recherche, l'histoire et la géographie, notamment pour expliquer les crises du moment. François Hollande, vous le savez, était l'invité de la Fabrique de l'Histoire aujourd'hui, ce qui lui a donné l'occasion de développer la vision qu'il se fait de son propre rôle. Bonsoir Frédéric Saïs.
Bonsoir.
Le président de la République a insisté sur le temps long et sur la trace qu'on laisse dans l'histoire en train de s'écrire. Lui qui se débat avec des sondages aujourd'hui en Berne, il n'a pas hésité à convoquer plusieurs figures d'hommes incompris dont la postérité a reconnu les mérites.
Oui, 4 ans de mandat, c'est déjà un peu d'histoire, qui plus est avec les événements qu'on a connus ces derniers mois, avec les guerres qui ont été engagées en Syrie, en Irak, au Mali. Alors, vous aurez remarqué que depuis le début de son mandat, François Hollande nous parle beaucoup d'avenir. Ce fut d'abord un an avant que la courbe du chômage ne redescende, ça n'a pas pris. Ce fut ensuite la promesse d'une période de redistribution qui apaiserait les esprits après le ras-le-bol fiscal. Nous n'y sommes pas précisément. Alors François Hollande, encalminé dans les sondages, boudé par une partie de la majorité, contesté par la gauche, a préféré, cette fois-ci sur France Culture, voir plus loin, beaucoup plus loin.
Il y a l'impression que l'on donne de manière fugace, d'une manière volatile. Ça c'est ce qui est, j'allais dire, dans l'écume. Et puis il y a la profondeur. Il y a ce qui va être finalement le sens même d'une action, la trace. Moi, c'est ce qui m'anime, m'habite presque. C'est qu'est-ce que j'aurais laissé comme trace? Qu'est-ce que un autre n'aurait pas pu faire et que j'ai entrepris? Nous faisons l'histoire, nous ne la racontons pas. Je fais l'histoire, mais il y a aussi les circonstances qui font qu'un homme politique décrié, Churchill, repoussé, peut devenir un héros.
Alors voilà, ça va mieux ou plutôt ça ira mieux. François Hollande se place ainsi dans cette posture qu'il affectionne, la posture sacrificielle, sous-entendu. Mes réformes d'aujourd'hui sont incomprises, mais demain, elles porteront leurs fruits sur le modèle de Gerhard Schröder en Allemagne. Et tant pis si je dois perdre les élections. Alors c'est un discours ambigu car il est à mi-chemin entre le père de la nation et le paternalisme pour les citoyens qui n'auraient pas compris. En tout cas, défaut de popularité, François Hollande choisit donc la postérité.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Il s'agit maintenant de prospective, pas de postérité. Et le FMI revoit à la hausse la croissance française qui devrait frôler 1,5% cette année contre une prévision de 1,1% jusqu'à présent. Parmi les causes de cette embellie, il y a sans doute la baisse des prix du pétrole. L'or noir n'a jamais été aussi bon marché, ce qui, paradoxalement, ne fait pas que des heureux. Ainsi, les investissements dans les énergies renouvelables deviennent moins rentables à mesure que le prix du baril chute. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Tara.
C'est l'un des enseignements du 30e rapport sur l'état des marchés des matières premières. lumière un rapport publié à Anne-Laure par la société d'études Cyclope.
Oui, l'économie mondiale se relève d'un choc et le réveil est douloureux. C'est le constat dressé par cette étude assez exhaustive des marchés mondiaux de matières premières, notamment. Une conjoncture qui rappelle fort les années 80, au lendemain du choc pétrolier, des prix déprimés, des guerres commerciales et des marchés en excédent. C'est le cas notamment pour le pétrole et les céréales. Quant aux grands producteurs, pays de l'OPEP pour le pétrole ou miniers australiens pour le minerai de fer, rien n'indique qu'ils modifient leur stratégie de production dans les années à venir. Bref, les sommets atteints par les marchés mondiaux de matières premières sont derrière nous, et les retrouver prendra du temps. Quant aux efforts réalisés en termes de transition énergétique, eh bien, ils sont forcément moins efficients quand le prix des matières premières est bas. Philippe Chalmin, qui a dirigé ce 30e rapport Cyclope.
L'impact très négatif de cet effondrement des prix, alors qu'il y a ses effets positifs pour nous autres consommateurs des pays avancés, puisque nous payons notre essence moins chère, etc. Mais cela a aussi tendance à rendre peut-être plus coûteuse notre conscience environnementale. C'est vrai que vous êtes prêts à faire des économies d'énergie, à œuvrer pour la transition énergétique quand le pétrole est à 100 dollars le baril. Quand il est comme aujourd'hui entre 40 et 50, l'incitation est moindre, que ce soit celle des consommateurs, que ce soit celle malheureusement aussi des politiques.
Par ailleurs, tant que l'utilisation de l'atmosphère restera gratuite, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas donné un prix mondial au carbone, peu de chances que les efforts politiques en termes de climat payent, surtout lorsqu'on connaît le volume très important des investissements réalisés récemment pour pouvoir puiser dans nos sous-sols pendant de très nombreuses années encore.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. En bref, 6 mois après les attentats de Paris, plus de 1000 personnes qui sont aujourd'hui parties civiles rencontrent les juges d'instruction qui enquêtent sur le drame. Ces entrevues vont durer 3 après-midi entiers. Ce sont aujourd'hui les victimes des terrasses, des cafés et des restaurants de Paris ainsi que du Stade de France qui sont reçus à l'école militaire. Les victimes du Bataclan verront les juges demain et jeudi. Ouvrons à présent la page judiciaire de cette édition justement avec la 3e semaine du procès consacré à 2 anciens bourgmestres rwandais. Ils doivent répondre de crimes contre l'humanité pour avoir directement participé au massacre survenu dans la commune qu'ils administraient, la commune de Kabarondo en 1994. Bonsoir Catherine Dutu.
Bonsoir.
Vous êtes donc pour nous à ce procès et pour la première fois aujourd'hui, le plus jeune des 2 accusés a dû s'expliquer sur son attitude à l'endroit des Tutsis bien avant le génocide.
À l'homme de 58 ans aujourd'hui, chemise grise, lunettes rectangulaires, la présidente du tribunal demande « Avant le génocide de 94, y avait-il déjà des tensions ethniques dans votre commune à Kabarondo ?»« Non », répond Octavien Genzi, ponctuant ses phrases de passé simple et de gestes des mains. Il y eut certes des incidents à partir de 1990 et de la première offensive du FPR Tutsi, mais entre 90 et 94, dans ma commune, pas une seule personne tuée en fonction de ce qu'elle était au niveau ethnique ou politique. Alors j'ai bien compris que la commune de Kabarondo était un îlot de tranquillité dans une mer d'insécurité, ironise l'avocat général Philippe Courroy, mais quand vous entendiez des messages politiques à la radio ou ailleurs, des messages désignant les Tutsis comme des ennemis, vous en concluiez quoi ? Que les Tutsis étaient en danger, oui. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi, bourgmestre, alors que les dirigeants même du pays n'arrivaient pas à faire régner la paix ? Ça dépassait même le pays, puisqu'il fallait négocier à Arusha, en Tanzanie. Et vous, vous voulez blâmer le bourgmestre ? Octavien Genzi, dont la ligne de défense se dessine, l'impuissance face au chaos qui se déchaînait au Rwanda en 94. Octavien Genzi, dont la voix se brise quand il évoque les Tutsis qui étaient réfugiés dans l'église de Kabarondo. « Je n'ai pas pu les protéger des massacres », dit-il. Je n'ai rien pu faire.
Merci Catherine Dutu en direct du Palais de Justice. Vote solennel aujourd'hui à l'Assemblée nationale du projet de loi de modernisation de la justice du 21e siècle, un texte qui vient d'être adopté et qui instaure notamment le divorce sans juge, on va en reparler dans un instant, et qui serait aussi, disent les critiques, marqué par un recul général du rôle accordé aux magistrats. En ce qui concerne le juge d'instruction, précisément, eh bien le projet renonce à la collégialité de l'instruction, c'était la disposition phare qui avait été voulue après le scandale du procès Outreau lors de Vulpian.
Rappelez-vous, procès d'Outreau, Saint-Omer 2004, on avait parlé de fiasco judiciaire. 17 accusés, dont 13 acquittés, et un juge placardisé à la Cour de cassation. Après un tel scandale, il fallait remédier à la solitude du juge d'instruction, considéré comme un facteur d'erreur judiciaire. Une commission d'enquête parlementaire avait rendu son rapport en juin 2006. 15 recommandations, dont une, la 5e, prônait la collégialité. 3 juges d'instruction au lieu d'un, obligatoirement. La loi a été votée dans l'enthousiasme et l'émotion en mars 2007, mais elle n'a jamais été mise en œuvre. Son application, en effet, a sans cesse été repoussée par un vote du Parlement à chaque fois, exactement comme pour l'encellulement individuel, voté en 2000 et jamais mise en œuvre non plus. Cette collégialité, les députés s'apprêtent donc à l'enterrer 10 ans tout juste après la commission d'enquête. Motif, la chancellerie estime qu'il faudrait 300 juges d'instruction de plus pour l'appliquer, soit une augmentation des effectifs de 60%, jugée intenable, alors que notre justice serait en voie de clochardisation, comme l'a dit le garde des Sceaux. Alors il faut savoir que nos tribunaux pratiquent une forme de collégialité, la co-saisine des juges d'instruction. Facultative, elle est décidée au cas par cas par le président du TGI pour des dossiers complexes, graves ou sensibles, antiterrorisme, crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité, criminalité organisée ou grande délinquance financière. Mais parce qu'elle est à la carte, la co-saisine a un inconvénient. Elle induit une rupture d'égalité entre les juridictions et entre les justiciables.
Laure de Vulpian, et puis toujours dans ce texte de loi, adopté donc en première lecture tout à l'heure, la possibilité de divorcer sans passer devant un juge. Les couples seraient juste accompagnés d'un avocat. Que signifie ce changement? C'est un dossier signé Alexandra Vieira.
Une mesure symbolique, mais surtout représentative du désengagement de l'État sur la question de la séparation pour Hélène Steinmetz, sociologue.
On va vers une privatisation du divorce. C'est-à-dire que symboliquement, de mon point de vue, ce qui change, c'est d'abord que l'État va renoncer à intervenir dans les règlements qui suivent les séparations des couples mariés. Et donc, cette réforme, c'est une prise de position des pouvoirs publics qui semblent considérer qu'ils n'ont plus à veiller à ce que les accords entre les conjoints soient équilibrés.
Pas de quoi s'étonner, d'après elle, ce n'est que le prolongement d'un processus engagé depuis plusieurs années. Dans l'imaginaire collectif, le divorce est prononcé par un juge du haut de son estrade, mais la sociologue le rappelle, dans les cas de divorce par consentement mutuel, ce n'est pas le cas.
Il faut quand même avoir en tête que depuis maintenant plus de 10 ans, depuis la réforme du divorce de 2004, les procédures de divorce par consentement mutuel, elles ont été considérablement allégées. Le passage devant le juge a déjà, depuis une bonne dizaine d'années, perdu une partie de sa charge symbolique. Quand on divorce par consentement mutuel, c'est une audience seulement, qui dure en moyenne 8 minutes, souvent avec assez peu de décorum. Il y a une audience, cette audience, elle ne se tient pas forcément dans une salle d'audience de tribunal, ça peut être dans le bureau d'un juge. Les juges ne portent pas forcément la robe. Et le processus est dans la majorité des cas assez rapide.
Donner de l'importance au juge, c'est s'attacher à cette figure tutélaire. Mais dans le fond, le juge n'est pas là pour être la dernière chance des époux. C'est l'avis de François de Singly, sociologue spécialiste de la famille.
En mettant le juge, on voulait ne pas assumer l'idée que le mariage civil n'était pas un contrat et on voulait faire comme s'il était une institution. Donc on lui mettait des habits symboliques plus lourds pour faire plus sérieux. Mais en tant que tel, le mariage civil est un contrat entre deux adultes qui donnent leur consentement pour s'unir ou pour se séparer. Donc l'absence du juge n'est en rien une banalisation ni du mariage ni du divorce. La fonction du juge n'a d'ailleurs jamais été pensée comme la dernière chance de renouer à alliance.
Conséquence de la réforme, la responsabilité des deux conjoints est renforcée. Plus de juges pour jouer la tierce partie. Les deux époux doivent tout régler avec leur avocat respectif, au risque de voir l'un des deux conjoints lésé par la séparation.
Alexandra Vieira. L'actualité en bref à l'étranger. L'Eurogroupe espère débloquer un nouveau financement pour la Grèce. Les ministres des Finances se disaient confiants à leur arrivée à Bruxelles. Athènes a besoin de ce prêt. La Grèce doit rembourser plus de 2 milliards d'euros à la BCE mi-juillet. Et puis le gouvernement Tsipras évacue le camp de réfugiés d'Idoménie. 8500 personnes se trouvaient là encore hier. Elles sont déplacées progressivement vers des lieux moins insalubres, dans le calme pour l'instant et à l'abri des caméras. Enfin, en Syrie, cette offensive contre la capitale, entre guillemets, du califat de Daesh, la ville de Raqqa, fief donc de Daesh, attaquée depuis la mi-journée par les forces kurdes soutenues par les États-Unis. On termine cette édition en Ukraine, dans le Donbass, où le conflit est toujours latent. 7 soldats viennent d'être tués. Bonsoir Stéphane Sioan.
Oui, bonsoir. En une seule journée, 7 soldats ukrainiens tués, 9 autres soldats blessés. C'est le pire bilan qu'ont connu les forces ukrainiennes sur le front de la guerre du Donbass depuis presque un an. Hier, de façon encore inexpliquée, les bombardements se sont soudain intensifiés le long de la ligne de démarcation et l'artillerie séparatiste a fait d'énormes dégâts dans les rangs ukrainiens. Derrière ce bilan, tout aussi important qu'il soit, il faut comprendre que ces derniers mois, le conflit ne s'est jamais réellement éteint, même s'il est sorti un peu des radars. Les échanges d'artillerie, les accrochages continue de manière quotidienne, aggravant de manière lancinante le bilan total de la guerre. Hier, le président ukrainien Petro Poroshenko, en déplacement en Turquie, a déclaré que la guerre dans le Donbass avait passé le cap des 10 000 morts et des 20 000 blessés. Cette recrudescence des combats intervient à un moment politique et diplomatique très particulier. Hier soir, les chefs d'État ukrainiens, russes, allemands et français ont eu une conversation téléphonique afin de faire progresser l'idée d'élections dans le Donbass cet été, des élections pluralistes qui se dérouleraient dans le cadre légal ukrainien. Cela permettrait aux diplomates de solder l'affaire ukrainienne, voire même de rétablir des relations économiques normales avec la Russie. Or, dans la situation sécuritaire sur le terrain, actuellement, tout contredit la position des diplomates. Il est en l'état illusoire de voir des élections se tenir, alors que les armes continuent de parler et de tuer.
Stéphane Sion à Kiev, merci. Demain, des averses en Bretagne, de belles éclaircies. Ailleurs, il fera 8 à 13 degrés le matin. À 22h, ce sera Stanislas Vazak pour le journal de la rédaction.